Sud Radio 10h midi, débat.
Débat avec vous, avec nos débatteurs du jour. Éric Vérac, bonjour. Entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges, bonjour à vous. Benjamin Cauchy ne devrait pas tarder à nous rejoindre, conseiller en communication politique. Patrick Mignon, ancien commandant de bord, bonjour.
Bonjour.
Porte-parole de VIA, la voix du peuple. Et Jackie Isabello, bonjour, communicant,
bonjour,
cofondateur de l'agence Coriolink. On va évoquer évidemment la fin du masque et du couvre-feu, un allègement qui tombe à pic. Bon d'accord, vous allez me dire qu'on cherche la petite bête, mais néanmoins ça arrive 3 jours avant les régionales. Faut-il obliger les soignants à se faire vacciner? C'est ce qu'envisage Olivier Véran. Et puis Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui veut lutter contre les rodéos urbains et qui semble prendre des mesures un petit peu plus concrètes. Arrivera-t-il à les mettre en application? On verra bien. Commençons avec notre petit tour de table de vos coups de cœur, vos coups de gueule, de ce qui a retenu votre attention. Éric Vérac?
Oui, alors moi c'est un coup de gueule un peu obscur, mais peut-être que vous vous souvenez qu'il y avait une polémique il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans, sur le TAFTA, le fameux traité de libre-échange de l'Atlantique.
L'Atlantique,
ouais. Qui avait fait hurler beaucoup de gens et qui a finalement été abandonné, notamment parce que Trump n'était pas un chaud partisan de ces traités. Et j'ai été très surpris de découvrir, en lisant attentivement le compte-rendu du sommet européen, américano-européen ou euro-américain, de voir que finalement on remettait le TAFTA sur le tapis et que les conclusions de ce sommet euro-américain étaient qu'on créait un bidule qui s'appelle le TTC, le Trade and Technology Council, qui sera en fait chargé de négocier un nouveau TAFTA. Alors moi je suis globalement un partisan du libre-échange.
Qu'est-ce que ça change concrètement? Qu'est-ce que pour nos auditeurs,
on va concrètement refaire le TAFTA, mais sans l'annoncer, en le confiant à des petits groupes de travail. Et c'est un peu l'histoire, si vous voulez, du traité de Lisbonne que les Français avaient refusé et puis finalement qu'on a réintroduit par la loi. Moi, ça ne me choque pas qu'on fasse du libre-échange. Ce qui me choque, c'est qu'on ne dise pas clairement qu'après une reculade due au grognement des peuples, finalement, on réintroduit les choses par la petite porte. Ça n'a été discuté par personne. Ça a été décidé entre quelques personnes au sommet avec les États-Unis, avec Biden. Et on découvre que c'est deux petits groupes d'experts qui vont être chargés, par exemple, d'autoriser le bœuf aux hormones américain sur le marché européen sans que personne ne le voie ou sans que ça ne soit discuté par personne. Et je pense que, incorrigiblement, la caste au pouvoir dans le monde considère qu'elle peut passer outre par des petites portes, des lobbies, des couloirs, et considérer comme une et non avenue l'expression des opinions publiques. Je pense que c'est une façon de tirer sur la corde jusqu'à ce qu'elle casse, qui est très nocive. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que les produits agricoles américains, dans les années qui viennent, seront autorisés sur le marché français sans qu'on ait pu en discuter. C'est ça la conséquence exacte, que nos agriculteurs vont se trouver à nouveau en concurrence avec de la malbouffe, sans avoir rien vu venir et avec des prix plus élevés forcément, puisqu'ils feront de la nourriture de qualité.
Ouais. C'est effectivement, on en a très peu entendu parler. Jackie Isabello.
Alors, cher Eric, tu vas voir, moi aussi, j'ai choisi un truc américain, mais je savais pas que j'allais te faire concurrence. Moi, je me satisfais de la désignation enfin faite d'une jeune femme qui s'appelle Laila Khan et qui, en gros, va être la patronne de la concurrence aux États-Unis, qui va un peu botter les fesses des fameux GAFAM, puisqu'elle va être en charge un peu de revisiter les règles de la concurrence, puisque vous le savez, pour faire simple, c'est un sujet compliqué, mais nos données sont exploitées par des techniques qu'on maîtrise assez mal. Et en fait, ces grands groupes qui détiennent tout un tas de marques leur créent une espèce de monopole qui peut être extrêmement dangereux pour les libertés publiques et qui, surtout, pourrait empêcher les innovations de se développer dans tout un tas de pays. Et cette jeune femme qui dit ça depuis très longtemps, à l'époque où celui qu'on aime tant adorer en France et qui s'appelle Barack Obama avait, lui, finalement paver une grande autoroute pour les GAFAM. J'ai trouvé ça intéressant de souligner cette nomination parce que la révolte va venir de chez eux. Et à l'heure où des mouvements de commerçants s'indignent un peu des moyens disproportionnés qui sont ceux d'Amazon et d'autres en matière de commerce, cette jeune femme, elle va leur faire voir qu'elle s'y connaît bien en droit, qu'elle s'y connaît bien en technologie. Et ça va être sans doute un peu plus dur de nous raconter des cracks dans les prochaines années. Et si on devait, pour terminer, décider de dissocier ces entreprises, comme les Américains l'ont fait dans tout un tas de domaines, et notamment dans les télécoms, ça pourrait venir par son entremise.
Oui. Benjamin, oui, vous voulez réagir?
Oui, ça fait deux ans que le département de la justice...
Attendez, votre micro n'est pas ouvert, donc je... Allez-y.
Benjamin est d'accord avec moi.
Oui, je suis d'accord. Bonjour à tous. Je suis d'accord avec vous. Le département de la justice américain, sous Trump, déjà depuis deux ans, travaille à ce démembrement finalement des GAFA au titre de la loi antitrust, et donc finalement Joe Biden ne fait que reprendre le travail qui a été commencé et initié par Donald Trump. Voilà, je voulais juste rendre à César ce qui est à César, et pour le coup, pour une fois que l'administration américaine, au-delà des clivages politiques, arrive à avoir une continuité, c'est toujours positif.
Et là, notamment pour nous. N'est pas une Trumpiste, hein, je...
Oui, mais vous le confirmez. Ce qui importe, c'est le sujet, ce ne sont pas les hommes, là, pour le coup. Oui.
Avec une petite limite que j'ai vécue dans le milieu de l'aérien, c'est-à-dire qu'il y avait eu la même chose, les lois antitrust dans les années 65-70, qui avaient donné naissance à toutes les petites micro-compagnies américaines et compagnies régionales et locales. Eastern Airlines, par exemple, qui n'était pas si petit que ça, puisqu'il partait de Miami, il desservait le monde. Mais après, c'est fait une reconcentration, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des cycles et des respirations. Il y a des concentrations, puis des déconcentrations. Et alors là, si on peut faire voler en éclats ces grands groupes, je suis ravi. Mais c'est pas la panacée, ça durera pas forcément, parce qu'il y aura de nouveau une reconcentration qui donnera lieu à un autre cycle, etc. À mon avis.
Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que ce qui est terrible dans ces affaires-là, c'est de dire, les gens, si vous leur dites, on va se mettre sur des sites où on sera pas très nombreux, par exemple, division par 10 Facebook, ça ne les intéresse pas. Parce que dans le domaine des réseaux sociaux, on cherche la course à l'audience. Mmh. Alors que dans le transport, on veut aller d'un point A à l'autre bout de la terre et on s'en fiche. Et ça crée, pardonnez-moi, je termine, un privilège exorbitant, pour utiliser un terme d'économiste qui est plutôt un terme monétaire, pour ces groupes qui utilisent vos données sans que vous compreniez le quart de ce qu'ils arrivent derrière à contrôler de votre vie. Ce qui n'est pas le cas dans le domaine des transports, et qu'à un moment, quelqu'un regarde et dise, il ne faut pas le faire, et si ça intéresse les auditeurs, qui lisent le bouquin de Shoshana Zuboff, qui est exceptionnel et qui est très bien écrit, qui est un peu gros mais qui est très bien écrit, à la fin, si vous rentrez bronzé, vous terminez, vous êtes blanc comme un cachet d'aspirine, parce que ça leur donne des pouvoirs qu'on ne soupçonne absolument pas. Donc je ne dis pas qu'il faut casser tout ça, il faut avoir quelqu'un qui soit capable de dire ces associations de marques, ça va les rendre trop puissants.
Je suis bien d'accord,
mais
l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, qui est celui de l'aérien, et notamment aux États-Unis, puisque c'est d'eux qu'était venue la déconcentration. Moi, je me suis toujours demandé comment des compagnies, vous savez que la rentabilité, la marge d'une compagnie aérienne, c'est très faible. C'est moins de 5, c'est 4%, même pas, peut-être 2,5, 3%. C'est donc ridicule par rapport à certaines autres industries qui ont des marges de 20 ans, 20, 30, 35. Je me suis toujours demandé comment on pouvait faire de l'argent, gagner de l'argent quand on investissait et qu'on créait une compagnie aérienne compte tenu des contraintes qu'il y a en maintenance, en salaire, etc. Et pourtant, ils les ont fait. Donc, si vous voulez, je comprends bien ce que vous voulez dire, ça n'intéressera pas, sauf que dans l'aérien, ça s'est fait, il y a des gens qui ont créé ces compagnies, puis après, ils les revendent, ils mettent la clé sous la porte, et ça reconcentre, ça redéconcentre, et ainsi de suite. Donc, en fait, il y a des choses, moi en tout cas, qui m'échappent, mais j'espère bien qu'on va arriver à cet amoindrissement de ces GAFAM, parce que c'est vrai qu'on peut difficilement y échapper, et la manipulation des données derrière, l'utilisation des... Parce que vous avez vu le RGPD aujourd'hui, comment c'est contourné.
Oui, complètement.
On nous demande sans arrêt, on est d'accord, on finit par dire oui parce qu'on en a marre.
Tout de suite, parce que, évidemment.
En voie droite, on peut même continuer sans accepter.
Maintenant.
Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio, c'est l'heure du journal.
Sud Radio 10h midi, débat.
On est ensemble avec vous jusqu'à midi sur Sud Radio pour débattre et commenter l'actualité, discuter et se renoncer à la violence. C'est l'un des sujets du bac. Je vous demanderai votre avis sur ces sujets dans un instant. Pour commenter l'actualité, Éric Vérague, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges, Benjamin Cauchy, conseiller en communication politique, Patrick Mignon, ancien commandant de bord, porte-parole de VIA, La Voix du Peuple, et Jackie Isabello, communicant et cofondateur de l'agence Coriolink. On va parler évidemment évidemment des annonces faites par le Premier ministre hier, la fin du masque, la fin du couvre-feu dimanche, un allègement qui tombe plutôt pas mal à 3 jours des départementales. On va parler également de ce qu'envisage Olivier Véran, à savoir obliger les soignants à se faire vacciner si la vaccination n'augmente pas plus. Et puis les rodéos urbains, des mesures sont envisagées, des mesures sérieuses par le ministre de l'Intérieur. On n'a pas fini notre tour de table des sujets qui vous ont mobilisé. Patrick Mignon.
Eh ben, quelque chose qui est passé très discrètement, c'est qu'il y a une loi, un projet de loi constitutionnelle qui a été introduit par Madame Pompili, qui veut modifier l'article 1 de la Constitution, le premier, celui qui définit ce que la France veut faire. Et ils veulent rajouter la phrase suivante, tenez-vous bien. La France, donc, préserve l'environnement ainsi que la diversité biologique et agit contre le dérèglement climatique dans les conditions prévues par la Charte de l'environnement de 2004. Ça paraît anodin comme ça, mais moi, je me suis posé la question, parce que la Charte de l'environnement de 2004, elle fait déjà partie du bloc de constitutionnalité qui est dans la Constitution, qui est, c'est une décision du Conseil constitutionnel. Donc, quand c'est flou comme ça, c'est qu'il y a un loup.
Donc, j'aimerais,
j'en sais rien. Mais je trouve ça vraisemblablement assez suspect qu'ils veuillent renforcer. Et je trouve, moi, que toucher sans arrêt à la Constitution, enfin, sans arrêt toucher à la Constitution, ça n'a que peu d'intérêt. Ça veut dire qu'on a des intentions qui sont bien cachées et qu'on veut mettre un cadre. Alors, ça s'inscrit tout à fait dans l'esprit de Madame Pompili et de l'écologie actuelle, qui est une écologie contraignante, sinon punitive. Je rappelle qu'elle a déjà mis le délit d'écocide dans un projet de loi qui va passer. Elle veut continuer ce qui était prévu, enfin ce qu'ils veulent obtenir, c'est-à-dire la suppression de 50% du nucléaire civil. Mais il faut savoir que ça oblige à avoir des intermittents. Or, le problème des intermittents, on le sait, c'est 25% de facteurs de charge, c'est-à-dire de disponibilité pour l'éolien, et 15% pour le solaire. Donc quand on n'a pas cette électricité-là, notamment en hiver, on est obligé d'en importer. On en importe d'où ? On importe d'Allemagne. Comme l'Allemagne est à zéro nucléaire, on importe de l'électricité sale, allemande, avec en charbon. Plus au charbon et au gaz. Ouais. Donc des énergies fossiles, et on le sait pertinemment quand il y a une situation anticyclonique hivernale qui est assez fréquente, on voit les nuages de pollution qui viennent directement de l'Allemagne vers la France. Ils ne s'arrêtent pas comme celui de Tchernobyl à la frontière. Donc je pense que tout ça, c'est un peu... D'ailleurs, elle devrait se méfier avec sa loi d'écocide, parce qu'à partir du moment où, en supprimant le nucléaire français, elle fait perdre à la France son indépendance énergétique. Moi, je considère que ça pourrait être qualifié de haute trahison quand on est ministre. Deuxièmement, quand on crée un délit d'écocide et qu'on oblige à importer de la pollution venant des pays auxquels on achète à prix d'or l'électricité, parce qu'évidemment, au moment où on doit l'acheter, elle coûte beaucoup plus cher que quand il y en a partout. Donc, très sincèrement, je pense que pour ces deux choses-là, elle pourrait être devant la haute cour. Dernier point, tant qu'à faire de modifier la Constitution, il y a un autre projet de loi qui vient d'être ramené au devant de la scène, je vous le rappelle, c'est le projet de loi bioéthique. Bioéthique sur le transhumanisme, la création et l'autorisation de chimères homme-animal, également, chose invraisemblable, pour des raisons psychosociales. Je peux vous parler du psychosocial les avions. Ouais. On autoriserait les femmes à avorter, à tuer leur enfant à 9 mois, c'est-à-dire à la fin de la grossesse.
C'est un vrai sujet
c'est
compliqué.
Un vrai sujet.
Je préférerais que ce projet de loi bioéthique... Donc c'est pas exactement ça
J'aimerais bien que, moi, toutes ces atteintes à la vie humaine soient mises dans la Constitution, c'est-à-dire qu'en article 1, la France s'engage à préserver la vie humaine sous toutes ses formes. Voilà. Donc, c'était ça mon petit coup de gueule de ce matin.
Éric Vérag, il a un avis là-dessus ?
Oui, enfin, pour l'histoire de la charte de l'environnement, il faut rappeler que le problème qui justifie ça, c'est que le Conseil constitutionnel n'est pas chargé de vérifier la conformité des lois aux traités. Donc, c'est pour ça qu'on fait passer les traités dans la Constitution. Maintenant, je pense qu'il faut dire les choses clairement, c'est que la loi Pompili, c'est l'expression du fait que, en France, les écologistes ne veulent pas d'une réindustrialisation. Vous savez, on fait tout un blabla, les relocalisations. En réalité, personne ne veut avoir des usines chez soi en France, en tout cas pas les écologistes. Et qu'on crée le délit d'écocide pour dissuader les usines de venir se réinstaller en France, soyons clairs. Et qu'en effet, on est sous le coup de cette vision très étrange où... Ouais. On a une majorité parlementaire aujourd'hui qui se reconnaît, une majorité probablement dans la population, qui se reconnaît dans des thèmes où on ajoute des droits nouveaux pour certains et
on en retire pour d'autres.
Des droits écologiques et on en retire à la majorité, ça c'est évident.
Ouais. Oui, Benjamin Cauchy.
Je partage le point de vue de Patrick. Effectivement, que ce soit sur la loi de bioéthique, effectivement, inscrire dans la Constitution la préservation de notre humanité, de l'espèce humaine et de ce qui fait notre spécificité, ça me paraît être du bon sens. Après, concernant l'intégration de la Charte d'environnement, finalement, dans l'article 1, c'est purement du gadget marketing politique pour faire croire qu'on s'est occupé de l'environnement. Finalement, rien ne change. Voilà. On ouvre un tiroir, on l'enlève, on le met dans l'autre. C'est uniquement de l'habillage, mais on a l'habitude, pour le coup, avec les écolos, d'être uniquement dans le cosmétique.
Alors, pour les industriels, ce ne sera pas un gadget.
Non.
Pour ceux qui seront incriminés pour
crime, oui, bien sûr.
Ce ne sera pas un gadget.
Mais aujourd'hui, on peut quand même leur retoquer la Charte de l'environnement.
Benjamin, coup de gueule.
Oui, alors coup de gueule et puis surtout envie d'un coup de klaxon plutôt à 3 jours du scrutin des élections départementales et régionales. Sondage après sondage, on voit que les intentions de vote sont extrêmement faibles. Un taux de participation qui va peut-être frôler les 30-35%, avec des pointes à 29% seulement de participation chez les 18-24 ans. Donc c'était plutôt un cri d'alerte, mesdames, messieurs, même si vous n'êtes pas d'accord avec votre président sortant, même si vous êtes d'accord avec votre président sortant de région ou de collectivité locale, allez voter. Allez voter. Il y a des gens qui se sont battus dans notre pays pour avoir le droit de vote. Il y a des gens qui se battent encore aujourd'hui et qui rêveraient de pouvoir voter. Donc, je vous en prie, les listes sont suffisamment éclectiques. Il y a de tout dans toutes les régions, de l'extrême gauche à l'extrême droite, des listes citoyennes, des gens qui ont des revendications plus corporatistes que d'autres. Qu'importe, mais allez voter, parce qu'il n'y a rien de pire que d'entendre des gens se plaindre du manque d'action politique des décideurs locaux, lorsque l'on sait que ces gens-là ne sont pas allés voter, ont préféré aller à la pêche ou sont restés sur leur canapé. Donc
oui,
les contestataires
mais
de canapé.
On a le cas de Brigitte qui nous dit oui. Je suis toujours allée voter, mais j'avoue, dimanche, je ne sais pas encore pour qui je vais voter.
Eh bien, elle a encore le temps de la réflexion, ça c'est plutôt positif. Donc renseignez-vous.
Il y a le vote blanc, Jacqueline Isabelle.
Je vais vous donner un truc, pas du tout un télo. J'ai discuté avec mes enfants hier et mon fils vient d'avoir 18 ans, donc on parle un peu de ça. Il me dit, très honnêtement, depuis toujours, on a des discussions sur tous les sujets et moi ça m'enrichit beaucoup, il me dit. Mais il me dit, sur ce truc-là, je vais y aller pour te faire plaisir. Mais personne n'en parle, on ne comprend pas. Donc je me pose la question, à un moment, on ne remet
parle,
pas...
On en parle quand même.
Non, mais... attends,
mais pas bien, temps, mais pas bien.
Valérie, sur quelle antenne on parle des pouvoirs économiques de la région? Sur quelle antenne on parle des impacts de MAPTAM et nôtres sur la reconfiguration des collectivités territoriales?
Ah, mais ça, c'est
sur quelle antenne
ça,
on donne les masses? Est-ce que les gens connaissent les missions, ne serait-ce que de la région et du département? Une seule qui les différencie?
Ben on va le faire. Regardez, par exemple, à votre fils, vous pouvez lui dire que la formation professionnelle, c'est dans les mains, l'apprentissage.
Moi, j'ai fait autant de politique que vous, si ce n'est plus. Mais c'est pas le problème. Mais à un moment, est-ce qu'on n'est pas
au CFA,
est-ce qu'à un moment, on n'est pas assez mature, et je vais tous vous faire hurler, et c'est quelqu'un qui a fait de la politique qui vous le dit, pour se dire, il y a des scrutins qu'on doit réserver à la démocratie directe. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui doivent repenser des formes de scrutin intermédiaire, comme le Sénat reste une forme de scrutin différent sur des sujets où on sait qu'on n'arrivera pas à faire la reconquête des attentions. Ça n'est pas possible. Si vous voulez qu'on parie, là, aujourd'hui, 100 000 euros, hein, et moi je les mets sur la table, où on se dit dans 6 ans, tiens, demandons aux gens si ça peut se
dire,
les gens dans 6 ans sauront plus qu'aujourd'hui, ce que fait la région ou le département, cette reconquête médiatique, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure avec les développements des réseaux sociaux, ça ne se fera pas. Et ce sont des sujets très importants. Et à un moment, de se dire Patrick Mignon, il est mieux armé pour être le gars qui va discuter avec la direction générale de l'aviation civile que le gamin de 18 ans. Est-ce qu'à un moment, sur certains scrutins, on va sortir de cette culpabilisation et de se dire, ce sont des sujets hyper techniques. Moi, j'ai suivi tous les sujets
de
formation professionnelle. Moi, j'ai suivi les sujets de formation professionnelle avec AGFOS PME, avec le MEDEF. Je vous parie qu'en deux minutes, Benjamin, je vous éclate sur les sujets. Vous savez ce que c'est la taxe qui a été créée de collecte sur les taxes que payent les entrepreneurs. Et je suis entrepreneur pour financer un fonds qui redistribue à l'État 13% de ce qu'on paye. Ouais. Non, vous ne le savez pas. Il y a des sujets compliqués, pardon de m'emballer. À un moment, il faut se dire, est-ce que tous les scrutins sont ouverts à la démocratie directe et est-ce qu'on serait un peu plus adulte
pour moi, oui.
Mais ce que vous dites est paradoxal, puisqu'on n'arrête pas de dire que ces élections-là, départementales et régionales, sont les plus proches des gens. Donc, c'est les élections qui devraient les concerner.
Ah, j'ai pas dit ça, moi.
Ça
les concerne le plus. Oui, mais pareil, je veux dire, la médecine nous concerne. Est-ce que le financement d'un hôpital est quelque chose qu'on vote même le maire, qui est parfois le président de l'hôpital du coin, il n'a pas les compétences techniques. Je veux dire, c'est pas d'amputer la démocratie, qu'à un moment, on dise aux gens, il y a des choses qui sont extrêmement compliquées. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous n'aurez pas le temps de vous mettre dedans et que vous puissiez vous faire représenter d'une certaine manière?
Il y a deux choses.
Attendez, on va marquer une pause.
L'Assemblée nationale est une forme déjà de délégation. La constituante, elle dit, tout le monde peut discuter de n'importe quoi.
On marque une pause et on se retrouve. Vous êtes en train de dire aux gens qui sont trop cons pour comprendre.
C'est ce qu'il dit.
Moi, je suis trop con pour comprendre certains...
Non, je dis pas. C'est ce que vous dites.
Mais Valérie, de fait un acte chirurgical, c'est compliqué. De conduire un avion, c'est compliqué.
Allez, c'est la pub, c'est la pub et on y revient.
Sud Radio 10h midi, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors, on a pas mal de sujets à voir, mais quand même, votre coup de gueule fait beaucoup réagir, Benjamin Cauchy. Alors, Patrick Mignon, parce que je rappelle quand même que Jackie Isabello nous disait que tous les suffrages ne devraient peut-être pas être directs.
Vous disiez qu'il n'y avait pas eu de débat.
Il y a eu des débats sur France 3 qui ont fait 3%. LCI, ça a un petit peu mieux marché, mais parce qu'on attendait le fight, on attendait le truc. Mais il y a eu des débats sur le fond.
Je suis relativement d'accord avec Benjamin, déjà dans le propos qu'il a tenu au début. Et dans mon ancienne formation politique à laquelle j'appartenais, j'avais dit la même chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas promouvoir l'abstention dans un scrutin parce qu'on n'est pas d'accord. Il y a des gens qui meurent encore aujourd'hui dans le monde pour avoir le droit de vote libre. L'abstention, pour moi, n'est pas une option. Mais je l'ai dit en parlant au-dessus. Non, je sais, c'est pas. Je parle de Benjamin. Mais par contre, il existe le vote blanc et il faudrait certainement aménager les conditions du vote blanc. J'en ai déjà parlé sur cette antenne. Par contre, concernant ce qu'a dit Jackie, retour aux grands électeurs. Moi, je suis pas favorable à ça. Par contre, ça pose le problème des strates qui existent, c'est-à-dire que ces régions qui étaient au nombre de 22 ou 24, si on inclut les coms, on les a réduits à 13. C'est-à-dire qu'en fait, on veut copier l'Allemagne parce qu'on veut devenir le meilleur élève de l'Europe et avoir des landers allemands sous forme de nos régions avec des roitelets. Et des petites reines. Donc moi, je dis, c'est pas forcément idéal. Je pense que les cercles importants qui importent à l'homme en tant qu'individu, c'est-à-dire sa famille, sa commune, en tant que groupement de famille et la nation, avec la présidentielle et la législative pour les députés, ce sont les trois cercles importants. Ouais. Les autres strates sont des strates dont on peut discuter la pertinence. Je pense que le département est nécessaire parce qu'il est encore à taille humaine. Pardon. Je pense que les régions aujourd'hui, les 13 régions qui ont été faites par le redécoupage de Hollande, sont totalement hors de propos. Et c'est la raison pour laquelle les gens ne vont pas y aller voter. Heureusement qu'ils ont eu l'idée de les grouper. S'ils avaient dégroupé régional et départemental, il n'y aurait eu personne à la régionale.
Éric Vérac, je crois que vous vouliez aussi réagir.
Je voulais ajouter deux commentaires. Le premier, quand même, c'est que Jackie, on t'a démasqué. Tu fais partie de ces gens, de cette élite qui crée des choses de plus en plus compliquées. Alors, tu as parlé de l'apprentissage. Effectivement, personne ne comprend les règles de financement de l'apprentissage. Exemple. Pour des tas de raisons historiques que le MEDEF et la CGPME à laquelle tu as appartenu ont choisi, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes de financement croisés qui profitent à tout ce petit monde. Et donc, on connaît bien la technique qui consiste à créer des usines à gaz que personne ne comprend sur des sujets pourtant vitaux comme la formation professionnelle. Et après, on dit aux gens, vous voyez, vous y comprenez rien. Donc, vous n'êtes pas capable de choisir. Donc, on va décider ça entre nous. C'est un système de captation du pouvoir par les élites qui est bien connu.
Merci.
Jackie, tu peux nous le présenter comme ça, mais ne nous demande pas d'être d'accord avec un système qui consiste à légitimer la dépossession des décisions par le peuple, enfin, au nom d'une élite qui a décidé qu'elle était intelligente et qu'elle portait l'avenir. Si c'était le cas, on ne serait pas dans cette situation d'endettement. Donc moi, je ne suis pas d'accord pour laisser décider à ma place des gens qui ont mis ce pays en état de faillite, mais qui continuent à se croire très intelligents et très compétents. Il y a un deuxième sujet qui n'est pas faux, c'est que c'est vrai que la démocratie représentative, ça ne correspond plus à ce que les gens attendent. Et les gens, ils s'abstiennent. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent « mais je vais voter pour des guignols qui ne me demandent jamais mon avis ». Et quand je le donne, de toute façon, ils n'en font qu'à leur tête parce qu'ils expliquent qu'eux savent et que moi, je ne sais pas. Et aujourd'hui, on a un sujet sociologique qui est qu'on ne peut pas dire aux gens « vous pouvez voter en permanence sur Internet pour tout et rien, vous pouvez parier en ligne sur tout et rien ». En revanche, dès qu'il s'agit des grandes décisions politiques, là, vous remettez votre voix à Monsieur Tartampion qui ne sait pas se servir d'Internet. Vous pouvez vous déplacer à sa permanence si vous voulez, et il va décider à votre place sans jamais vous consulter. Mmh. En réalité, on ne pourra pas faire durer la démocratie représentative dans un monde numérique. Et il faudra adapter le mode de choix politique, la gouvernance, comme on dit, à la réalité des gens. Enfin, mais c'est difficile de dire qu'il n'y a jamais eu autant de diplômés en France, il n'y a jamais eu autant de Bac plus 4 que de Bac plus 5, et d'expliquer que les gens sont de moins en moins capables de participer aux décisions. Absolument. Ça ne peut pas se faire.
Allez, on va changer de sujet. Je voulais, moi, signaler mon étonnement, pour ne pas dire plus, face à cette association, ce partenariat entre Assa Traoré et le chausseur Christian Louboutin. Un partenariat avec l'acteur Idriss Elba et son épouse Sabrina, une collection pour l'égalité et la justice pour tous. Vous savez, ça me fait penser aux États-Unis, le mouvement Black Lives Matter, ça fait la une des journaux avec ceux qui ont lancé ce mouvement, ô combien certainement louable, hein, de lutter contre le racisme, mais qui sont devenus des milliardaires et qui ont la femme qui a lancé ça à 3 ou 4 maisons. Et donc là, on est quand même dans une espèce de mélange des genres, quand même associé Louboutin à Assa Traoré, qui n'est pas une personnalité totalement sans controverse, mais m'étonne un peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, bah non, je ne suis pas vraiment étonné. Alors, déjà, elle incarne le communautarisme, donc c'est tout ce qui, personnellement, c'est tout ce que j'exècre. Hein. Forcément, ça va casser l'unité nationale, ça va essayer de marquer les différences. Le racialisme, finalement, pour moi, est du racisme. Alors, je suis assez étonné que Louboutin décide de rentrer dans un combat communautaire, finalement. Mais c'est pas tant Traoré que je vais reprocher, ils ont déjà assez de trucs.
Moi, que Louboutin s'associe...
Bah, c'est Louboutin qui est venu les chercher, c'est plutôt à Louboutin...
Non, mais c'est la personnalité, moi, qui me dérange, c'est-à-dire que c'est quand même...
Elle profite du système, elle profite du business.
Il vend où, Louboutin ? C'est quoi sa clientèle ?
J'en sais rien.
C'est les États-Unis. Et Assa Traoré, elle est connue aux États-Unis. Donc, quand on dit je choisis un des symboles qui s'appelle Assa Traoré, quand on vend aux États-Unis, on vend aux riches aux États-Unis.
Madame Traoré qui fait la une de Time Magazine, quand même, je vous le rappelle, c'est quelque chose. Donc, effectivement, c'est de la pub, Louboutin. Je ne sais pas combien il la paye. Tant mieux pour eux. Tant mieux. Voilà.
Oui, Eric, pardon.
Oui, je voulais rebondir sur ce que dit Jackie, qui est très juste, mais le présenter un peu autrement. Oui, il faut peut-être assumer aujourd'hui de dire que l'idéologie du vivre ensemble, de la diversité, c'est une affaire de grandes marques mondialisées qui veulent supprimer les barrières nationales au marché pour vendre et inonder le monde entier. Donc tout ce qui participe de cette idéologie selon laquelle l'État-nation est un vieux concept de Gaulois réfractaire et que tout serait mondialisé dans un seul marché, ce serait vachement mieux, plaît à cette caste. Et il y a une alliance objective aujourd'hui entre tous ceux qui dénigrent la France et l'identité française et ceux qui se considèrent comme plus à l'aise à New York qu'en Picardie, comme disait le fils Glucksmann. Et on a quand même aujourd'hui une alliance objective, c'est-à-dire que c'est cette caste mondialisée qui aujourd'hui est la seule défenseur en France d'une idéologie où on explique que finalement l'identité française c'est ringard et qu'on serait tous une grande famille à se faire des bisous sur la bouche et à se mettre à genoux devant tous les plus forts, ce serait vachement bien.
Mais d'ailleurs, il a raison, hein, c'est beaucoup plus facile de marcher à New York dans les rues avec des Louboutins qu'en dans un champ de betteraves en Picardie. Ceci dit, on risque de se planter un petit peu. Ouais. Ceci mais dit, ce village mondial ne vit que parce qu'il y a du communautarisme. Ouais. C'est le village idéal du monde sans frontières. est beaucoup trop grand à l'échelle humaine. Il ne peut fonctionner qu'avec des micro-communautés ou des grandes communautés.
C'est des segments de marché, en fait. Je vais répondre à Michael qui dit « C'est horrible pour Valérie Expert, une noire qui porte des Louboutins et fait de la pub. » Non, ce n'est pas une noire qui porte des Louboutins et fait de la pub. On s'en fout de sa couleur, ce n'est pas la question. On parle de quelqu'un qui n'est pas totalement neutre. Et qui est neutre, quand je dis neutre, c'est-à-dire que son frère Bagui Traoré est aujourd'hui devant le tribunal pour avoir tiré sur des policiers. Son autre frère, son petit frère, comme elle dit, il y a eu une indemnisation qui a été faite pour l'une un co-détenu qui a été violé puisque ça a été reconnu par la loi. Pas avec une fourchette.
Alors, lui demander à Guy Degrenne, d'être sur ça.
Donc voilà, c'est la personnalité. C'est pas qu'elle soit noire, Michael, je n'en ai rien à faire. Qu'elle fasse de la pub, je trouve que par rapport à son combat, c'est assez étonnant. Et Louboutin, non, n'est pas une marque pour le peuple. Ce sont des chaussures qui valent près de 900 euros. Donc, je doute que ce soit une marque très populaire.
Par contre, il faut expliquer aux auditeurs ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que...
Alors, comme vous l'expliquerez après la pub, parce que sinon, nous, ça va nous coûter très cher pour le coup si on part pas à l'heure. À tout de suite, après la pub.
Sud Radio 10h midi. Débat.
Et ben, moi j'aime bien quand on dévie un petit peu du programme prévu, voilà, absolument. Alors vous vouliez répondre quand même, Jackie.
Pour dire aux gens que dans la société, les politiques ne sont plus les porteurs des grandes valeurs qui permettent de structurer l'espace public. Et aujourd'hui, ce sont les marques, parce que les marques, elles ont des valeurs, et les gens, quand on les interroge, eh bien, ils ont plus confiance en leur marque préférée qu'en leur homme politique ou en leur femme politique. Et donc, des communicants, des salauds de communicants, un peu comme moi, et puis peut-être Benjamin, pardon du terme salaud, mais je le dirais juste pour moi, eh bien, on dit aux marques, aujourd'hui, vous devez affirmer vos valeurs, vous devez dire aux gens que vous les défendez sur des sujets importants. Et donc, ce qui se passe avec Louboutin et qui se passe avec d'autres, ce qui s'est passé lorsque Nike a dit non, le tournoi de Wimbledon n'a pas à dire à Madame Williams comment elle s'habille, eh bien, les entreprises, Danone l'a fait, Maïf le fait beaucoup, elles font de la politique. Elles revendiquent des valeurs politiques parce que les politiques ne sont plus en capacité de les porter et les consommateurs, eh bien, ils adorent ça. Mmh. Si vous dites on vous préserve en faisant attention à ce qu'on vous donne à manger, on vous préserve en faisant attention de ne pas produire nos vêtements en utilisant la main-d'œuvre ouïghour, on fait etc. etc. Eh bien, les consommateurs, ils apprécient ça et ils comprennent ça. Et les marques l'utilisent. Donc là, on peut demander à la marque Louboutin, qu'est-ce que vous cherchez en proposant à Madame Traoré, finalement, d'être votre égérie sur un sujet qui est sans doute extrêmement controversé en France. Voilà. Donc je vous disais que eux, leur clientèle, elle est dans les Émirats, elle est aux États-Unis, qui vendent beaucoup là-bas, plutôt que dans le 9-3 où est Madame Traoré. Et donc, ils vont se servir de cette égérie, parce que demander à M. Kaspersky, qui est celui grâce à qui on met le genou à terre aujourd'hui, eh bien, ça leur coûterait 300 millions de dollars. De demander à Madame Traoré, ça va leur coûter deux paires de godasses et peut-être éventuellement un abonnement à un service digital.
Voilà, juste répondre encore à Michael qui dit « Pourquoi vous rappelez les faits de délinquance des frères d'Assad Traoré pour l'attaquer? Ne vous en déplaise, vous tenez des propos racistes. » Est-ce qu'à un seul moment, j'ai parlé de la couleur de peau? Est-ce qu'à un seul moment, j'ai dit ça? Et je dis ça parce qu'Assad Traoré parle au nom de son clan, parle au nom de ses frères et se sert de ce statut de victime qu'elle argumente là-dessus. C'est pas une personnalité indépendante.
Ça commence à bien faire, voilà. Valérie, quand même, cette histoire. À chaque fois que l'on donne, qu'on rappelle des faits de personnes qui ont une couleur, on est taxé de raciste. À chaque fois qu'on est dans une idée divergente de ce que dit le gouvernement, on est d'extrême droite. Et ça commence à bien faire. Ouais. Arrêtez de penser la France, arrêtez de penser la politique avec une couleur de peau ou une religion. Pensée nation, pensée locale. C'est insupportable, ça. Franchement, j'en ai ras-le-bol de ces histoires. Chaque fois qu'on dit quelque chose, c'est « Oui, mais il est noir, faut rien dire. » Bah, je suis désolé, s'il a fait une bêtise, qu'il soit noir ou blanc, on s'en fout, quoi. Ouais. Vous n'en avez pas parlé de la couleur, en plus.
Mais vous demandez.
Insupportable.
Eric, vous êtes un peu loin de nous, mais...
Non. Je suis prêt, avec le cœur.
Absolument.
Non, je connais par cœur.
Vous, surtout.
Je connais par cœur ce comportement que je vois dans mon quartier, parfois, mais de moins en moins, d'ailleurs, heureusement, qui consiste à dire que si on n'est pas d'accord avec
quelqu'un qui se pense d'origine étrangère, puisque très souvent ces gens ont des papiers français, c'est parce qu'on est raciste. Mmh. Et je pense qu'il faut qu'on nettoie une bonne fois pour toutes cette culture de l'excuse qui consiste à faire croire que des gens de couleur devraient bénéficier de dérogations aux règles. Le principe de la République, c'est que les règles sont les mêmes pour tout le monde, que les gens soient noirs, blancs, jaunes.
Ouvert. Allez, on... je vais laisser Yves, nos auditeurs, dire c'est quoi Louboutin. Bah voilà, vous avez tout résumé. Louboutin, c'est une marque de chaussures qui a été très, très à la mode il y a quelques années, qui a une semelle rouge, qui vaut effectivement près de 1000 euros par paire de chaussures, qui est assez inconfortable selon. Je n'ai pas la chance d'en avoir selon ceux qui les portent, comme Jackie Isabello. Donc voilà.
Juste pour les filles. Est-ce que j'ai le droit de dire que je ne mets pas le Louboutin parce que je risque de me faire taxer de. C'est
le facho. Ils font pour les garçons, ils font pour les filles.
Quelqu'un disait, je regrette de ne pas avoir de Louboutin pour pouvoir les boycotter.
Et moi, j'attends de voir Mme Traoré manifester pour le pouvoir d'achat avec des Louboutins aux pieds dans les rues de Paris. Voilà. Je serais ravi de la prendre en photo.
Et Maître Gims, ça fait une excellente chanson en se moquant un peu de Louboutin. C'est très sympa.
Parce qu'elle a critiqué aussi les élites, elle a critiqué les bourgeois, elle a critiqué toute cette caste-là. Et c'est un peu le symbole quand même de la bourgeoisie.
Ils adorent ça.
Voilà, allez. Fin du masque et du couvre-feu. Les Français vont pouvoir respirer. Donc, à partir d'aujourd'hui, le masque n'est plus obligatoire à l'extérieur, sauf dans certains cas précis que vous imaginez assez bien, c'est-à-dire quand vous êtes dans un endroit où il y a plusieurs personnes dans les magasins. Et puis, la fin du couvre-feu, hier, c'était le bon sens, nous a dit le Premier ministre.
Oui.
Étonnant, à trois jours, ça
tombe
bien.
Comment voulez-vous qu'il fasse autrement ? Une dérogation donnée pour voir la fin d'un match, fantastique d'ailleurs, à Roland-Garros. Un refus de dérogation pour le match de foot qui, à mon avis, attirait plus de monde que le match de tennis. Enfin bref, c'est du tout et n'importe quoi. Ça, c'est typiquement l'État qui se prend les pieds dans le tapis. Il était grand temps que ça s'arrête. Ça aurait même dû s'arrêter le soir même de Roland-Garros. Ça n'aurait pas donné l'impression qu'il y avait des privilégiés qui avaient le droit de continuer d'assister à leur match de tennis. Ouais. Moi, encore une fois, j'étais ravi pour ceux qui y étaient. J'y étais pas. C'était un très beau match que je regardais à la télé. Voilà,
C'est surtout que ce couvre-feu n'était pas respecté. Il faut bien le dire.
Enfin, bien
ceux qui,
mais sortent... on ne peut respecter que les choses qui sont respectables. Je veux dire, là, c'était devenu une usine à gaz. Justement avec les masques.
Ça va, ça.
Donc franchement, il était temps de l'arrêter.
Alors, Eric, vous qui êtes très sensible sur ce sujet, je vous donne l'autre sujet du bac. Donc il y avait du bac de philo, discuter et se renoncer à la violence. Et un des autres sujets était, est-il toujours injuste de désobéir aux lois ? Ça va vous plaire ce sujet,
Ce sont des grands classiques. On faisait ça déjà de mon temps et on connaissait tous les réponses à l'avance.
Ouais.
Ouais, je vais faire un peu de provocation, Valérie.
Ça change.
Comme d'habitude. Ça m'étonne de vous.
Je vais forcer ma nature.
Oui.
Et je voudrais dire que la question discuter et se renoncer à la violence, ben, je trouve que moi j'appelle les élèves, s'il est encore temps qu'ils corrigent leur copie, à dire que la question est mal posée. La question est-ce que la violence est créatrice ou pas ? Et il vaut quand même mieux une opération violente mais créatrice plutôt qu'une longue palabre qui ne débouche sur rien. Et c'est un sens des choses interdites de nos jours.
Ouais.
Mais nous ne serions pas dans notre état de délabrement si de temps en temps nous acceptions la violence de l'action et que nous ne passions pas notre temps à vouloir nous perdre dans des discussions sans fin.
Bon, alors, sur désobéir aux lois, vous nous aviez dit que vous ne respectiez pas le couvre-feu.
Je confirme.
Donc, ça tombe bien quand même, cette décision.
Oui, non, mais vous savez, c'est le vieux principe de la Constitution de l'an 2 qui n'a jamais été promulguée. Mais, et qui ne fait pas partie de notre bloc de constitutionnalité, mais qui partait du principe que nous avions le droit de désobéir à des lois illégales ou à des lois qui n'étaient pas conformes à l'état de droit. C'est d'ailleurs prévu dans le statut des fonctionnaires, précisons-le, l'article 28 du statut des fonctionnaires précise qu'un fonctionnaire n'est obligé d'obéir à un ordre illégal que si cet ordre ne menace pas l'ordre public. Donc il y a en France, si les étudiants peuvent encore faire l'idée que même un fonctionnaire a le droit de désobéir à une loi, si un ordre donné
y compris les militaires d'ailleurs
menace l'ordre public. Donc en France, il y a une tradition qui est qu'on n'est pas obligé d'obéir aux lois injustes.
Ouais. Donc politiquement,
c'est une bonne
décision, plutôt une bonne nouvelle, plutôt une décision qui paraît...
Bah oui, c'est une bonne nouvelle. Ça fait des mois et des mois qu'on n'avait pas entendu Jean Castex dire quelque chose de positif. Donc déjà, sur ça, c'est déjà plutôt agréable à entendre. Et puis après, bon, sur le fond, c'est quand même... c'était une évidence de lâcher prise sur le masque et sur le couvre-feu. Hier soir, aux alentours de minuit, je peux vous assurer qu'à l'aide de Breteuil, il y avait encore du monde. Les gens ne vont pas attendre dimanche. Hein. Ça, c'est acté. Et j'ai pas vu de force de l'ordre rouler
sur... Qu'est-ce que tu fais, avenue de Breteuil, le soir?
Tu le sais très bien,
Benjamin.
Qu'est-ce qu'un gilet jaune fait avenue de Breteuil?
Je fais la manche. Je fais la manche, d'après toi. Hein, voilà. Plus sérieusement, à trois jours du scrutin régional, les mauvaises langues diront que le gouvernement va espérer le syndrome de Stockholm, mais que du coup, après la prise d'otage des masques et du couvre-feu, les victimes vont aller voter pour leur bourreau dimanche. Alors bon, c'est de l'humour décalé, mais quoi qu'il en soit, cette euphorie ambiante qui va naître à compter de ce matin et dans les jours qui viennent, le beau temps aidant, va forcément créer moins de colère et moins de ressenti à l'égard du gouvernement, et peut-être que ça aura un impact dans les urnes.
Et que les gens iront voter en disant merci Macron.
Merci
comme
Macron.
Crié,
voilà, c'est ça.
Jackie.
Non, je suis content de voir que Eric, qui cite la Constitution de l'an 2, n'était pas d'accord avec mon propos sur la représentation juste avant. Mais on aura une autre discussion, Eric, là-dessus. Tu vas te le reprendre dans le cornet, tu vas voir. Je sais plus si quel est le nom du philosophe grec qui a dit, je sais plus si c'est Aristophane ou enfin qui a dit le premier qui a jeté une insulte sur la place publique au lieu d'un caillou a inventé la démocratie. Je trouve que c'est des sujets qui sont plutôt pas mal. Ouais. Et ce qui est intéressant dans les sujets du bac, pour pas forcément parler que du masque, c'est qu'ils aient vraiment choisi que la majorité des sujets soient en rapport avec un peu l'ambiance du moment, parce que moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que les gamins sont jeunes, ils sont capables tout endurer. Ça a été des périodes très difficiles pour eux aussi, incessamment rappeler que d'autres ont connu la guerre, ça n'a aucun intérêt. Et donc, voilà, qu'à un moment, on rapproche ce seul examen qu'ils vont avoir avec des sujets qui sont vraiment d'actualité, qui puissent, au-delà de déterminer la problématique, thèse, antithèse, synthèse, qui soient aussi capables d'injecter tout un tas d'éléments qui soient de leur quotidien par rapport à des moments violents qu'ils ont pu vivre. Je trouve ça plutôt malin de la part de l'éducation nationale. Je conclurai en disant quand même, dans toute cette crise, s'il y a une institution et un ministre quand même qui s'en est plutôt bien sorti, c'est l'éducation nationale, parce qu'à la différence de tout un tas d'autres pays, si on avait fermé nos écoles, nos gamins seraient vraiment dans un état pitoyable. Et si ça n'a pas été facile, c'est peut-être un peu mieux qu'ailleurs.
Bon, allez, on marque une pause, c'est l'heure de la pub, hélas, et on se retrouve dans un tout petit instant. Ce sera très court, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi. Débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on a Marie en ligne qui voulait réagir à la fin du masque et à la fin du couvre-feu dimanche prochain. Bonjour Marie.
Oui, bonjour. Écoutez, c'était tellement prévisible qu'ils allaient nous enlever les masques avant les élections, parce qu'ils sont en pleine panique là. Et moi, j'espère que les Français vont réfléchir pour une fois. Malheureusement, il y en a beaucoup qui vont dire oh là là, ils sont gentils. Oh là là, ils nous ont enlevé le masque. Oh là là, moi ça me saoule. Les Français me saoulent. Il faut qu'ils réfléchissent et qu'ils commencent un peu à y voir clair.
Ouais.
Voilà.
Mais
j'en ai marre. Hein.
Mais en même temps, vous êtes contente de plus avoir à porter le masque.
Parce que vous croyez que j'ai attendu qu'on nous le... Non, mais attendez.
L'évolution béarnaise.
Ouais.
Donc, il faut arrêter.
L'esprit de Gaston Phébus est en vous, cher Marie. On voit la révolte.
Non, mais heureusement, mais je ne suis pas la seule. Mais les gens sont faux cul. Que ce soit pour les vaccins ou pour tout. Moi, je vois autour de moi. Oh là 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 là. Et puis, je vous dis, il y en a qui vont dire oh là là, merci Macron, merci Castex, merci. Oh là 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 là.
Vous croyez que les Français vont être dupes, entre guillemets Vous pensez que ça marche, ce genre de truc?
Vous l'avez dit vous-même, Valérie, je suis d'accord avec Marie.
Merci Marie, merci de votre appel.
Bien sûr.
Mais vous pensez que les Français sont dupes?
C'est le même coup que le 9,99€, tout le monde se dit « Ah, ça coûte pas 10 euros, ouf, super, c'est la même chose. »
Je pense que la donne est un peu différente, parce que je ne suis pas sûr que, vu le retard des candidats LREM sur leur concurrent régional,
passer de 10 à 11,
je ne suis pas sûr que cette mesure suffise à changer la donne. Notamment, je pense que
je ne pense pas que beaucoup
d'électeurs retrouveront le bulletin LREM.
Non, mais l'ambition n'est pas de de faire bénéficier de ça les candidats LREM. Tout est organisé, de toute façon, pour 2022, quoi qu'il se passe, que ce soit la manipulation de ce qui s'est passé en PACA, en faisant déclarer l'accord par le Premier ministre, qui était complètement délirant. On a vu le pataquès que ça a occasionné. Emmanuel Macron ne pense qu'à sa réélection à lui et orchestre tout par rapport à ça. Et ça semble marcher, puisque si vous regardez les derniers indicateurs, dans les baromètres IFOP fiduciales notamment, vous voyez que 40, depuis 40. 15 jours, 3 semaines, eh bien, le président a pris 7 points, le Premier ministre quelques 4. Points. Voilà, c'est pas pour faire bénéficier des candidats à l'RM au régional,
non, mais
pour tous se prendre des taux d'un demi-point
mais
ou d'un quart de point supplémentaire.
Mais ils espèrent peut-être que leurs adversaires auront moins d'électeurs, lesquels partiront à la pêche plus facilement.
Comme dirait Marlène Schiappa, qui a permis l'autorisation des masques? Laurent
ouais, Vous ne retenez que 25
17 secondes
d'un meeting de 3 heures.
Je l'ai beaucoup défendu. Voilà. En plus, j'ai trouvé que les journalistes avaient été méchants avec elle.
Ah bon?
Qui ne saute pas n'est pas Schiappa. Voilà. Franchement, c'est ça la politique aujourd'hui?
C'est un meeting qui a duré 3 heures. On va défendre Marlène Schiappa.
Ouais, on va arrêter de tirer sur une ambulance.
Autre sujet, il ne nous reste pas beaucoup de temps parce que c'est un vaste sujet. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé ce matin, il a lancé un appel solennel aux soignants à se faire vacciner davantage, évoquant pour la première fois l'éventualité d'une obligation vaccinale pour ces populations si la couverture vaccinale ne progresse pas d'ici la fin de l'été. Est-ce que légalement il peut le faire? Est-ce que c'est souhaitable? Éric, vous qui êtes très pointu sur le sujet.
Alors, les libertés. D'abord, il faut redire que tout ça est cousu de fil blanc puisque l'État a un problème, c'est qu'il y a 4 millions de doses qui vont bientôt être en date limite de péremption parce que, en gros, on a épuisé le réservoir naturel de volontaires pour se faire vacciner. Donc, je comprends la difficulté, mais il faut redire que l'Académie de médecine a émis un avis il y a 3 semaines pour expliquer que obliger les soignants à se faire vacciner, ce serait pas idiot. Et pourquoi pas les enseignants? CCNE se montre plus mesuré, mais en tout cas, il y a la petite musique de la vaccination obligatoire qui continuera à être distillée tout l'été et qui va viser petit à petit à installer dans les esprits le fait qu'après tout, obliger les gens à se vacciner, c'est pas inutile. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait si peu de soignants qui se soient fait vacciner.
Mmh,
et
oui.
Ce me semble être l'indice que les gens initiés ont quand même certains doutes sur le fait même de la vaccination.
Je parle même pas de la grippe. Ils se font déjà pas très vacciner. Les médecins se font vacciner, mais les soignants, parce que c'est un public assez large, les brancardiers, les fonctions qui sont dans l'indice, pardon du terme, les plus bas, sont des gens qui sont très, qui se font moins vacciner que les autres. Et finalement, ça n'est qu'une reproduction de ce qui se passe pour le vaccin.
D'accord, mais pourquoi ne se font-ils pas vacciner contre la grippe? Parce qu'en réalité, la grippe est dangereuse surtout pour les personnes âgées, comme le Covid,
voilà.
Et qu'ils savent que les vaccins ont des effets secondaires qui, pour eux, font que le bilan coût-avantage n'est pas positif.
Ben, j'engage. Moi, Éric
Verhaeghe,
mais primum
non nocere, je veux dire, quelqu'un qui est dans cette fonction-là, et moi j'en viens, puisque j'ai la grande satisfaction d'être un fils de militaire, c'est-à-dire un pompier qui soigne et qui est en plus militaire, eh bien, vous êtes là pour sauver les gens, et les rapports qui ont été faits ont montré que pendant la première vague, les personnels soignants avaient occasionné ce qui a été appelé des maladies nosocomiales en portant le virus dans les établissements de soins, et très honnêtement, c'est pas acceptable. Alors les Italiens qui ont vécu ça dans leur chair comme tout le monde, mais assez violemment, ont imposé la vaccination des personnels soignants. Les personnels soignants, eh bien, ils ont cette mission, ce sacerdoce. Il faudrait réfléchir à leur imposer si jamais ils ne le veulent pas. Je sais que c'est très difficile, mais quand on voit que
Alors,
ça a pu
Patrick,
disperser la maladie,
c'est préoccupant. Absolument pas d'accord. Moi, quand j'entends le terme obligation, y compris dans le cadre professionnel, ça me hérisse. J'ai les poils qui se hérissent. Surtout quand il s'agit de s'injecter d'injecter quelque chose ou d'ingérer quelque chose dans son corps. Encore qu'on oblige des gens à avoir des comportements professionnels au regard d'une nécessité, d'une éthique, de tas de choses, d'un uniforme pour les militaires, pour les pilotes, pour les personnels des compagnies aériennes, très bien. Mais ingérer quelque chose ou s'injecter quelque chose, déjà, c'est non, parce que ça, c'est du ressort individuel.
Vos enfants j'engage sont tout vaccinés.
J'engage tout le monde. Valérie.
Ils sont vaccinés pour aller à l'école, ils sont obligatoirement vaccinés.
Oui, mais pour certaines vaccinations, je l'ai déjà dit sur votre plateau, il y a des maladies.
Mais bien sûr,
la fièvre jaune, parce que les États l'imposent et professionnellement, j'y suis contraint. Donc, où j'exerce mon métier et je me plie au truc. Mais là, c'est totalement différent. On est dans le pays. On est dans le pays concerné. Deuxièmement, je vous engage à aller voir la vidéo qui vient de sortir d'un professeur de génétique moléculaire de l'Université de Paris-Saclay, qui s'appelle Christian Vélot, V-E-L-O-T, qui est spécialiste de ces choses-là. Vous apprendrez beaucoup de choses sur les vaccins, notamment les vaccins génétiques, et vous verrez pourquoi il considère que c'est une stupidité, je redis bien ce qu'il a dit, je l'ai écouté en venant, une stupidité que de vouloir vacciner, par exemple, les jeunes enfants. Et il vous explique pourquoi vacciner pendant une pandémie est en plus stupide également. Donc, il faut le faire en dehors d'une pandémie. On devient intelligent quand on écoute des gens comme ça.
Oui, mais deux choses par rapport aux ados. Effectivement, les Anglais et les Allemands reviennent sur cette obligation qui pourrait être faite pour les enfants, parce qu'ils préconisent simplement les enfants qui ont des signes de comorbidité. Alors, deuxième chose, je reviens un petit peu à la politique, mais c'est un petit peu ma madeleine. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron rende obligatoire le vaccin à 10 mois des élections présidentielles. C'est un sujet tellement clivant qu'il préférera mettre ça sous le tapis.
Voilà. Oui, il y a une proposition de loi sénatoriale, mais très honnêtement, je ne vois pas où est le sujet. Ces gens-là, ils côtoient en permanence des gens qui sont extrêmement faibles, dans des blocs opératoires, dans des EHPAD, qu'on se pose ce genre de questions, prima non nocere, je veux dire, ça a 25 siècles.
Y compris pour eux. Jacques, prima non nocere,
vous savez que se faire tuer quand on est militaire, ça n'est pas une cause d'accident du travail. Quand vous êtes militaire, vous signez pour défendre la France, et voilà, ça fait partie du truc. Vous y réfléchissez avant. Quand vous rentrez dans un hôpital et que vous fréquentez ma femme qui peut avoir une maladie, ma grand-mère qui machin, ou ma fille qui a ça, que vous puissiez
le diffuser, c'est qu'il n'a pas démontré que certains vaccinés étaient porteurs et transmetteurs du virus, malgré tout.
Mais 0,003,
c'est un procédé rhétorique.
Si vous êtes très honnête, Patrick, il n'y a pas de. Les chiffres montrent que le. Enfin, vous le voyez bien.
Je ne suis pas anti-vaccin.
Et en Angleterre. Oui, mais
je ne suis pas du tout anti-vaccin.
Vous êtes en train de
Je ne suis nullement anti-vaccin, mais il faut le faire d'une manière réfléchie. Et je ne suis pas certain que le ministre de la Santé ou l'État ait le droit d'imposer à ses personnels de faire ce genre de choses.
Merci à tous. Dans un instant, André Bercoff, très bonne journée sur Sud Radio.